Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast Écoutons Charlotte Mason. Je m'appelle aussi Charlotte et je vous propose de faciliter la lecture des nombreuses ressources disponibles sur le blog de Charlotte Mason France grâce à ce format audio des articles traduits par notre équipe. Cet épisode est le 4e de la série du livre In Memoriam que nous avons désiré vous partager en l'honneur du centenaire de la mort de Miss Mason. Comme dans l'épisode précédent, nous sommes dans la seconde partie qui rassemble des témoignages et des souvenirs de proches, qui offre un regard plus intime sur Charlotte Mason et ceux qui ont partagé sa vie. Il s'agit aujourd'hui d'hommages des membres de la PNEU. J'ai choisi de vous en lire quelques-uns, mais vous pouvez retrouver l'intégralité sur notre blog, sur charlottemason.fr. Je vais commencer avec l'hommage de William Rawnsley. Charlotte Mason acheva une longue vie de grande activité intellectuelle en fermant simplement les yeux pour s'éveiller sur un autre monde. En mourant, elle a laissé un vide dans de nombreux foyers où, pendant plus d'une génération, elle avait été le phare vers lequel des centaines d'enfants enthousiastes et de parents reconnaissants se tournaient chaque jour de leur vie pour savoir comment diriger leurs études, et cela jamais en vain. C'était une grande enseignante. Elle possédait le génie pour concevoir de nouvelles méthodes, l'ingéniosité féconde pour les mettre en œuvre et la capacité inébranlable pour les maintenir et les développer malgré le fait qu'elle ait été invalide pendant de nombreuses années. Son influence magique permet à une grande partie de la société de choisir la bonne voie dans le domaine si important de l'éducation. Une éducation orientée vers la formation du caractère et le développement de l'intelligence, comme il convient à ceux qui veulent devenir des citoyens utiles et dévots. C'est à l'automne 1915 que Miss Mason, avec qui il était toujours agréable de s'entretenir lorsqu'elle était allongée sur son canapé dans la véranda de Squell Hall, me demanda de l'écouter exposer un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Elle voulait créer un nouvel environnement pour les enfants de nos écoles élémentaires, et elle me supplia d'aller voir par moi-même le travail vraiment merveilleux que sa méthode avait permis d'accomplir en peu de temps dans certaines écoles de Bradford dans le Yorkshire. Elle me dit que le principe était d'enseigner par les humanités, c'est-à-dire en fournissant aux enfants, dès leur plus jeune âge, une grande quantité de littérature anglaise de qualité. Elle était prête à miser sa réputation sur le fait qu'ils comprendraient et assimileraient ce qu'ils liraient eux-mêmes, et qu'ils aimeraient sentir qu'ils acquièrent chaque jour de nouvelles connaissances. Je découvris que Miss Mason ne s'était pas trompée. Tout ce qu'elle avait prévu s'était réalisé, et l'expérience était déjà un franc succès. Ces enfants n'étaient pas des exemples choisis. Il s'agissait principalement d'enfants de mineurs du bassin houillé du Yorkshire, mais leurs visages brillants et heureux montraient que l'idée de Miss Mason, selon laquelle un enfant a naturellement soif de connaissances et aime intensément apprendre de nouvelles choses par ses propres efforts, était un fait réel et incontestable à partir du moment où l'on envisageait l'enseignement autrement. Il n'était plus possible de considérer l'enfant comme un vase à remplir de fêtes, et la tâche laborieuse de l'enseignant consistant à faire des cours à une classe qui n'essayait pas d'être attentive devait être remplacée, pour le plus grand confort de l'enseignant et de l'élève, par un système dans lequel l'enfant était le travailleur, et heureux de l'être, tandis que l'enseignant guidait, expliquait et était à portée de main pour aider en cas de besoin, mettant ainsi fin à l'idée bien ancrée chez tant d'enseignants de l'ancienne méthode et même chez la grande majorité d'entre eux que pour le maître comme pour l'élève, beaucoup de besogne était inévitable. J'ai visité ces écoles de Bradford plus d'une fois ainsi que plusieurs écoles du Gloucestershire dans et autour de Stroud, et une remarquable et très grande école à Brixton, dans la région de Londres. Toutes affichent des résultats similaires, étonnamment bons, et dans toutes les écoles, les enseignants se déclarent redevables des conseils de Miss Mason et affirment que rien ne pourrait inciter l'un d'entre eux à revenir aux anciennes méthodes. Miss Mason est partie de la conviction que les cerveaux de tous les enfants normaux sont de même calibre et ne demandent qu'un apport constant de nourriture. Que les enfants de toutes les classes sociales, si l'abord est bon et suffisant, assimile facilement. De plus, chaque enfant est une personne, avec ses propres points de vue et sa propre façon d'aborder les questions qui l'intéressent, et doit être traité par les enseignants comme un individu, et non pas simplement comme le membre d'une classe. Certains sont plus rapides que d'autres, mais tous avec le temps, et il ne faut pas se presser, y arrivent. Et chaque trimestre leur apporte un surcroît d'intelligence et de force. Cette méthode était appliquée dans toutes les écoles que j'ai visitées, en commençant par les plus jeunes, et les premiers pas étaient, je crois, les plus intéressants. Tous les maîtres d'école s'accordent à dire que la grande difficulté de l'enseignement est d'obtenir et de conserver l'attention des élèves. C'est la première chose que notre nouvelle méthode se propose de faire. Et cette attention, une fois obtenue dans la classe la plus modeste, ne se perd jamais. Les enfants sont impatients d'écouter et de prouver qu'ils l'ont fait. La manière d'acquérir cette habitude d'attention est vraiment très simple. Le maître sélectionne un sujet qui intéresse les enfants et lit le passage d'un livre d'une manière claire et intéressante. Tous écoutent car ils savent qu'ensuite, l'un d'entre eux sera appelé à se lever et à raconter aux autres ce qu'ils viennent d'entendre. Tout le monde écoute la narration, désireux de corriger si le narrateur se trompe, et avec leur aide, mais sans celle du professeur, la classe achève la narration du passage et en commence un autre. Voici le secret. Tous les élèves savent que le professeur ne lira le passage qu'une seule fois, si bien que s'ils n'accordent pas toute leur attention, ils n'auront aucune chance de participer au jeu. Dans la classe supérieure, le passage lu est plus long, et la précision et l'esprit avec lesquels un enfant de 8 ou 10 ans se souvient et narre une page entière, presque mot pour mot, n'est pas moins étonnante que le pouvoir dont les enfants font preuve pour retenir pendant des semaines et des mois, là encore presque mot pour mot, les connaissances qu'ils ont assimilées une fois. Les pouvoirs ainsi acquis, grâce à l'habitude d'attention, s'étendent à tout leur travail et l'on constate qu'ils maîtrisent et retiennent les sujets qu'ils lisent seuls. Cette lecture est leur éducation. Ces livres ont toujours été choisis pour chaque trimestre par Miss Mason elle-même et l'on attend de l'enfant qu'il travaille et qu'il lise, au cours d'un trimestre, 2 ou 3 000 pages de très bonne littérature, acquérant ainsi non seulement des connaissances mais aussi un vif intérêt pour de nombreux sujets. Et, imperceptiblement, un vocabulaire considérablement large et un pouvoir d'expression clair qui l'élève immédiatement à un niveau dont il n'aurait même pas pu rêver avec les anciennes méthodes. Le premier élément essentiel à la mise en œuvre de cette nouvelle éducation merveilleuse est l'abondance d'une littérature appropriée. Les enfants doivent avoir des livres et encore des livres, tant en prose qu'en poésie, écrits par de bons auteurs qui ont le pouvoir d'écrire clairement et en bon anglais et qui ont quelque chose d'intéressant à dire. Une fois que les enfants sont sur la bonne voie, ils trouvent un réel plaisir dans leur travail, comme en témoigne l'expression universelle de joie sur les visages de toute une classe. L'intelligence accrue est également une conséquence notable, et elle se manifeste dans la rapidité avec laquelle les enfants maîtrisent tous les sujets qui leur sont proposés, y compris, comme me l'a dit l'un des directeurs, leurs travaux d'aiguille. De la littérature, nous passons aux arts. On sait depuis longtemps que la musique a un pouvoir d'élévation et de raffinement et qu'elle est la gracieuse servante de l'éducation. Miss Mason comprit qu'en plus de la musique et de la poésie, il y avait un certain pouvoir dans la peinture. Un grand directeur d'école, Edward Thring, fit du dessin un élément essentiel de l'éducation pour apprendre aux garçons à observer et à stimuler leur imagination. Miss Mason faisait montrer de bonnes reproductions d'œuvres des meilleurs peintres anciens et modernes aux enfants de son école primaire, lesquels étaient promptes à observer chaque détail, à remarquer les beautés essentielles du tableau et les moyens par lesquels le peintre avait obtenu ses effets. Après l'étude de ces reproductions de tableaux célèbres, ils étaient capables d'écrire un compte-rendu qui montrait presque toujours quelle emprise une belle œuvre d'art peut avoir sur l'imagination d'un enfant. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il s'agit là d'une aide puissante pour éduquer les enfants à voir ce qu'il y a de beau dans la nature et pour leur donner un sentiment de dégoût face à la dégradation et au mépris de ces beautés naturelles, dont témoignent partout aujourd'hui les papiers, les boîtes et les bouteilles qui jonchent le sol après un pique-nique dans n'importe quel endroit charmant que les Anglais, les Anglaises et les enfants visitent au cours de leurs excursions estivales. Nous ne nous débarrasserons pas de ces horreurs tant que l'éducation n'aura pas inculqué à notre peuple l'amour de la beauté et le respect de la nature. Et ce processus doit commencer, comme Miss Mason l'a justement perçu, dans nos écoles primaires. Je n'ai parlé que du dernier développement de la méthode de Miss Mason. Tous les enfants l'intéressaient et en vraie habitante d'un lac, elle était sensible au charme du paysage. Et elle avait la plus grande révérence pour les poètes du lac et pour tous les éminents victoriens. Sa nature enthousiaste communiquait à ses amis un élan pour tout ce qui valait la peine d'être vécu, si bien que l'on sentait que, depuis son divan que nous connaissions tous si bien, une influence bienveillante rayonnait de sa gracieuse présence, laquelle ouvrira la voie à des centaines d'amis et d'élèves et amènera toute la génération actuelle à la garder à jamais dans un tendre souvenir. Je voudrais ajouter un mot sur la Parents Review que Miss Mason éditait et dans laquelle elle exposait de temps en temps ses opinions, tandis que ceux qui assistaient aux résultats de son travail témoignaient souvent dans ses pages. Les fréquents articles sur l'histoire naturelle étaient une caractéristique très agréable que nous attendions tous avec impatience et que nous suivions avec plaisir. Mais ce qui est peut-être le plus remarquable, c'est que la revue a eu une vie aussi longue, sa première parue date de 1890, et qu'à l'exception des débuts, elle a été entièrement maintenue par des contributions volontaires. Puisse sa vie se prolonger encore. Je poursuis avec un des souvenirs d'Hélène Webb. Je rencontrais et j'écoutais parler Miss Mason pour la première fois lors d'une réunion de salon de la maison londonienne de la duchesse de Portland en 1892. Je n'ai jamais oublié l'impression que m'a faite sa gracieuse personnalité, ses manières et le charme de sa voix. J'ai oublié le titre de son allocution, mais il concernait son évangile de l'éducation et ce jour-là, nous fûmes nombreux à réaliser que nous avions eu sous les yeux une nouvelle vision. Ce fut aussi le début d'une amitié qui, depuis 30 ans, est l'un des plus grands privilèges et plaisirs de ma vie. Quelque temps plus tard, à Florence, je rencontrai Miss Mason et son amie Mrs. Fierce, près du campanile de Giotto, et nous étudiâmes ensemble ces magnifiques médaillons hexagonaux. J'associerai toujours à ce moment le médaillon de la tisserande dont Ruskin s'inspira lorsqu'il ressuscita le filage à la main dans la région des lacs. En septembre 1894, je rendis visite pour la première fois à Miss Mason à Humberside, visite qui fut inoubliable. À l'époque, elle et Miss Kitching vivaient à Springfield, au fond de la vallée, une maison qui faisait partie de la House of Education à ses débuts. Le lendemain de mon arrivée, Miss Mason m'emmena de l'autre côté de la route pour visiter la grande maison sur la colline dans laquelle elle envisageait d'emménager afin de rassembler tous ses élèves sous un même toit et d'en faire une demeure digne de la House of Education. Alors que nous remontions l'allée, le soleil brillait et devant la maison, nous nous sommes arrêtés et retournés pour regarder les monts Lougrigg et Quantrell avec le lac Windermere entre les deux. Et nous nous sommes dit, quand on pense que Wordsworth s'est tenu ici et a regardé tout cela, car sa nièce, Miss Harrison, née Wordsworth, avait vécu à Squell Howe jusqu'en 1892. Nous avons visité chaque recoin de la maison et nous avons décidé avec M. Curven, l'architecte, qui nous avait rejoint sur place, des quelques modifications et améliorations nécessaires. Dans l'ensemble, nous avons planifié un bel avenir, dont près de 29 ans avec ses excellents résultats appartiennent maintenant au passé. Un autre jour, Miss Mason m'emmena à Keswick, sur le toit du Mail Coach. C'était une bonne vieille voiture avec 4 chevaux, un véhicule tranquille à partir duquel on avait le temps d'observer le paysage. Ce jour-là, je reçus une merveilleuse leçon de peinture d'images, comme Miss Mason l'entendait. Nous nous sommes beaucoup amusés et nous avons pris beaucoup de plaisir à observer toutes sortes de petits riens de la vie quotidienne. Peu après cette époque, lorsque Miss Mason dut prendre conscience des limitations physiques dues à sa mauvaise santé, elle eut la grande sagesse d'organiser sa vie de manière à ce que chaque quantité d'énergie disponible puisse être consacrée au travail qui lui était si cher. De sorte que lors des nombreuses visites que je lui rendis par la suite, nos excursions se limitèrent aux belles promenades des proches environs. Ces promenades se faisaient dans sa petite Victoria, conduite par son fidèle Barrow. Ici, nous cherchions des rouges-queues, là, des jonquilles en fleurs, et certains jours, nous faisions le tour de Grasmere et achetions du pain d'épices à la vieille Sarah Nelson. J'aimerais pouvoir donner une image plus claire de tout cela. Ceux qui étaient présents à la délicieuse conférence d'Ambleside en mai dernier garderont toujours en mémoire une idée du charme de Squell Howe sous le patronage de cette chère maîtresse. J'enchaîne avec un petit mot de Household. Quelle que soit la difficulté, elle savait toujours trouver la bonne voie. Elle disait en peu de mots, toujours parfaitement choisis, mais naturellement et sans effort, ce que vous saviez immédiatement être la chose juste. Mais si vous aviez tâtonné longtemps et ne l'aviez pas trouvée. La pensée juste et le mot juste étaient toujours là. Il est encore trop tôt pour mesurer l'ensemble de son œuvre. La moisson n'est pas encore terminée. Cependant, il y a suffisamment de raisons pour être sûre que la postérité verra en elle une grande réformatrice qui a conduit les enfants de la nation d'un désert aride à une terre fertile. Les anciennes prières des foyers où nous avons enseigné reviennent à nos lèvres. Les enfants de nombreuses générations remercieront Dieu pour Charlotte Mason et son œuvre. Je continue avec cette lettre de Monsieur Walker qui s'intitule Le rôle du père dans l'instruction en famille. J'estime que c'est un grand privilège en tant que père d'enfant élevé dans une salle de classe de l'Union des parents de témoigner de la joie que cette formation apporte à la fois aux parents et aux enfants. Quand on suit la méthode de Miss Mason, les travaux des enfants dans leurs premières années sont pleins d'intérêt. Chaque faculté a l'occasion de se développer et les pouvoirs d'observation et d'appréciation sont stimulés, de sorte que par la suite, l'esprit est préparé à recevoir intelligemment de nouvelles impressions au fur et à mesure qu'elles se présentent. À l'époque où nous instruisions nos enfants, il était très agréable à la fin de chaque trimestre d'écouter leur examen oral et de noter avec un vif intérêt les progrès accomplis et l'intelligence avec laquelle ils avaient abordé les différentes matières. Puis il y avait les promenades à la campagne qui, pour moi, en raison de mes engagements professionnels, étaient rares. Les enfants avaient acquis des connaissances sur les villages environnants, sur chaque chemin, chaque sentier menant à une prairie, un bois ou un ruisseau qu'ils connaissaient bien, et ils étaient capables d'indiquer où se trouvait la première prime vert ou jonquille sauvage, de me dire quand les hérons étaient retournés à leur nid dans les arbres au-dessus du lac, ou de remarquer l'odeur du renard qui était passé ce matin-là. Avec le temps et l'apparition de nouveaux centres d'intérêt, les enfants manifestèrent une véritable appréciation de l'architecture. Et je fus frappée par la façon dont ils comparaient les détails d'une église que je leur présentais avec celles qu'ils avaient visitées ou sur lesquelles ils avaient lu. Lorsque je les emmenais à la National Gallery, ils éprouvèrent un grand plaisir à reconnaître les œuvres originales dont ils avaient étudié les reproductions pendant leurs leçons. On se souvient très bien de la rencontre de Winchester en 1912. En arrivant, les enfants, ayant cartographié la ville auparavant, connaissaient déjà leur chemin. Et lorsqu'ils rencontrèrent leurs camarades de l'Union, on remarquait comment, bien que venant d'endroits très éloignés et ne s'étant jamais rencontrés auparavant, ils s'intégraient immédiatement au sein de leur classe, de sorte que ceux qui assistaient à la scène pensaient qu'ils avaient dû travailler ensemble pendant de nombreuses semaines, tant l'atmosphère était harmonieuse. Lors de ce même rassemblement, nous avons été impressionnés par l'intelligence avec laquelle tous les enfants manifestèrent leur appréciation de la cathédrale, de Sainte-Croix et d'autres lieux d'intérêt dont ils avaient pris connaissance au cours du trimestre précédent. Le véritable travail de l'école de l'union des parents conduisait naturellement, et sans véritable rupture, à la vie plus large de la public school, pour laquelle les enfants, grâce à leur formation, étaient bien préparés. C'était comme s'ils passaient d'une salle de classe à une autre, tant leur préparation intérieure avait été complète et intelligente. L'ensemble de la formation semble inviter à une étroite camaraderie entre parents et enfants, par le biais d'intérêts communs et d'occasions d'étudier la nature et de discuter des problèmes de leur propre histoire. Ainsi, l'intérêt que parents et enfants portent à la vie des uns et des autres est largement dû à l'influence de Miss Mason, qui nous a appris à nous, parents, à réaliser que nos enfants, dès leur plus jeune âge, sont des personnes dotées d'une individualité propre et qu'ils doivent être traités comme tels et non pas considérés comme de simples jouets. On ne peut s'empêcher de penser à l'immense influence bénéfique que Miss Mason a exercée sur les enfants du pays. Maintenant que non seulement les écoles familiales, mais aussi un grand nombre d'écoles élémentaires et secondaires ont adopté son enseignement et ses idées, et que le travail commencé à Humberside s'est répandu dans tout le monde anglophone, et combien il a été utile à nos camarades coloniaux, ma propre connaissance du travail accompli en Nouvelle-Zélande en témoigne. Bien que la fondatrice nous ait quittés, son travail demeure et son travail se poursuivra. Voici l'hommage d'une mère à présent, celui de Miss Swingler. Ne serait-il pas vrai de dire à propos des mères que certaines sont nées mères, d'autres sont parvenues à la maternité et d'autres encore ont été poussées à la maternité? Il y a des femmes qui, bien qu'elles ne soient pas appelées au mariage et à la maternité, engendrent néanmoins des enfants spirituels qui se lèvent et les disent bienheureuses. Charlotte Mason était certainement de celles-là. Visionnaire, dotée d'amour, de courage et de patience, telle qu'il n'en est donné qu'à peu de gens, elle fut la conceptrice, l'ingénieure en chef et l'ouvrière principale d'une route qui est maintenant foulée par de nombreux pieds, jeunes et moins jeunes, avec espoir et joie. La tâche que Dieu confie aux mères est toujours la plus haute responsabilité qui soit pour un être humain. Il ne s'agit de rien de moins que de former à son service ses propres enfants, des enfants dont le cœur doit être sain, dont l'esprit doit être discipliné et alerte, dont l'âme doit apprendre à grandir dans la connaissance et l'amour de leur père s'ils doivent remplir le but pour lequel il les a envoyés ici. C'est cette vision que Miss Mason a eue et pour laquelle elle a donné sa vie. Cet idéal qu'elle a toujours tenu devant les yeux de ceux qui, dans les chemins poussiéreux de la vie quotidienne, avaient tendance à se contenter d'une norme moins élevée et plus matérielle. C'est pourquoi nous, les mères, avons envers elle une dette de gratitude qu'il est difficile d'exprimer avec des mots pour l'aide et l'inspiration merveilleuse qu'elle nous a apportée dans cette grande œuvre qu'est la formation des enfants. Ayant eu, au cours des 8 dernières années, 5 membres de ma famille à la POS, je suis reconnaissante du privilège qui m'a été accordé d'essayer, si faiblement que soit, d'exprimer cette gratitude. Il est difficile de mettre en évidence des points particuliers, mais je me souviendrai toujours avec gratitude de la façon dont le directeur de l'une de nos écoles pour filles, les plus célèbres et les plus importantes, commenta le pouvoir de concentration de mes filles. Et je considère qu'elles le doivent presque entièrement à la POS. On m'a demandé si cette éducation avait été un facteur déterminant dans la réussite de mes filles. On m'a demandé si cette éducation était une bonne préparation pour les public schools. Dirigée selon les principes quelque peu différents, que je n'hésite pas à répondre « oui », une opinion qui est amplement justifiée par l'expérience personnelle. L'habitude de la concentration s'est déjà mentionnée, l'amour des bons livres, l'ouverture vers des intérêts larges et variés, tout cela constitue à mon avis le meilleur équipement possible pour un garçon ou une fille, non seulement pour intégrer une école publique, mais aussi pour la vie plus large qui suit, quel qu'en soit le chemin. Je tiens à souligner un autre aspect qui m'a sauté aux yeux. la constante attention personnelle que Miss Mason portait à tout son travail. La petite note écrite de sa propre main sur chaque feuille d'examen était une joie attendue avec impatience. Même pour ceux d'entre nous qui n'avaient jamais eu le privilège de la voir ou de la connaître plus intimement. Nous, parents, offrons notre tribu de gratitude à un nom aimé et adoré, avec la ferme conviction que la route si noblement tracée conduira de nombreux voyageurs vers la cité de Dieu. En effet, bien que notre chef soit passé dans une lumière plus grande, son œuvre vit et se poursuit. Aucune œuvre commencée ne s'arrête avec la mort. Sur ces âmes seules, Dieu se penche et montre assez de sa lumière pour que nous puissions nous élever dans l'obscurité. Je termine avec cette lettre à propos des écoles élémentaires de M. Smith, un directeur d'école du Gloucestershire. Tous les membres de la Parents National Education Union prennent conscience de l'immense perte que représente le décès de sa fondatrice Miss Mason. Chacun sait qu'il a perdu une grande organisatrice et une grande dirigeante. Chacun sent qu'une amie chère s'en est allée. Une amie dont la douceur tenait à sa bienveillance, à sa compassion, à sa grandeur. Son esprit s'est répandu dans ses articles et dans ses livres. Et quand on l'a rencontrée pour la première fois, c'était comme renouer avec une vieille amitié. On reprenait la conversation d'hier, sans le rappel poignant d'une pause que le mot « hier » évoque souvent. Nous étions conscients de la force et de la vigueur de son esprit, de son enthousiasme, et de sa foi pour la cause de l'éducation, de sa volonté à la faire progresser. Elle s'est complètement exprimée dans la devise de toutes les écoles de l'Union. Je suis, je peux, je devrais, je ferai. En créant la PNEU et en établissant des écoles de l'Union des parents, Miss Mason réalisa ce qui était supposé impossible. Elle réunit la démocratie et l'aristocratie. Par un paradoxe apparent, elle démontra une grande vérité. Les démos devaient être les aristos. Tous devaient bénéficier d'opportunités libérales de développement. Une aristocratie pleine et entière. Le meilleur pour tous, c'est ce qui viendrait de tous, par nature. Logique, le meilleur. Miss Mason ne promettait aucun changement héréditaire dans la nature des habitants de son utopia. Le fruit du changement viendrait grâce à la culture et aux soins prodigués à l'enfant qui grandit. L'humanité ne ferait pas naufrage avant d'atteindre sa nouvelle Atlantide. Miss Mason avait toutes les qualités d'une grande réformatrice. Elle était clairvoyante, persévérante, intelligente. Elle avait de grands idéaux et la foi. La foi, elle l'avait en abondance. Quiconque eut l'honneur et le privilège de la rencontrer au Shire Hall, à Gloucester, et le plaisir de l'écouter s'adresser au directeur des écoles du Gloucestershire, ayant adhéré à l'Union, ne peut douter de son abondante foi qui rayonnait dans chacun de ses mots. Elle commença son discours en confessant sa propre foi dans les enfants, dans la nature humaine, dans le travail d'éducation. Elle l'acheva en exhortant son auditoire à tenir bon par la foi. Suite à la fondation de l'école de l'Union des parents en 1891, son influence sur l'éducation dans les comtés d'Angleterre et dans les colonies ne cessa de croître, en s'appuyant sur des principes sains. Mais si cette croissance était gratifiante, elle ne satisfaisait ni Miss Mason, ni les collaborateurs qu'elle avait formés et auxquels elle avait insufflé son enthousiasme. Les millions d'enfants fréquentant les écoles primaires publiques n'étaient pas touchés. La faim de leurs esprits, parfaits mais immatures, n'était pas satisfaite parce qu'on ne leur donnait pas le riche et abondant festin intellectuel prévu dans les programmes de la PUS. L'occasion d'étendre les activités de l'Union au domaine de l'enseignement public s'est présentée au cours des merveilleuses années 1916 à 1919. Les temps étaient favorables, le monde insatisfait à la renaissance de l'intérêt spirituel pour l'éducation et à une demande du monde occidental pour ce que l'éducation pouvait offrir de meilleur. Un mécontentement divin se manifesta à l'égard du caractère et de la quantité de l'enseignement dispensé dans tous les types d'écoles. Le succès qui suivit l'expérience de Drillington prouva la faisabilité de la méthode dans un nouveau type d'école. Et la brochure écrite par Miss Humbler, directrice de l'école et pionnière de la POS dans les écoles primaires publiques, mit à la disposition de tous ceux qui s'intéressaient à l'éducation les résultats de l'expérience. Le nombre d'écoles publiques adoptant les programmes et les méthodes de la POS augmenta rapidement, l'intérêt s'éveilla et les demandes de renseignements émanant des autorités éducatives vinrent de régions nombreuses et très éloignées les unes des autres. Miss Mason eut la chance de vivre assez longtemps pour voir son travail porter ses fruits. Des milliers d'enfants reçoivent aujourd'hui l'éducation préconisée par l'Union, dans des écoles financées et entretenues par l'État et les autorités éducatives locales. Et le nom de Miss Mason doit certainement être prononcé dans des centaines de foyers où, il y a quelques années, elle était inconnue. Le comté de Gloucester compte plus d'écoles affiliées à la PNEU que tout autre comté. Plus de 100 maintenant. Il est dommage que le reste de l'Angleterre ne soit pas aussi conscient de sa perte que le Gloucestershire l'est de son gain. Le nombre augmente. Des écoles supplémentaires adhèrent à la PNEU chaque trimestre. C'est en tant que directeur d'une école de l'Union élémentaire que je voudrais rendre un hommage mérité mais insuffisant au génie d'une grande réformatrice et organisatrice de l'éducation. Je voudrais essayer d'exprimer ma gratitude, laquelle sera toujours insuffisante, pour l'exemple de dévouement et de sacrifice de toute une vie à l'éducation de l'enfance de la nation, ici et dans tout le monde anglophone. Et je sais que ce qui est dit ici, recevra l'assentiment de mes collègues qui estimeront, comme moi, que moins de la moitié a été dite. Nous nous souvenons de Miss Mason parce qu'elle nous a appris à considérer les enfants comme des êtres parfaits mais immatures, que leur esprit est un tout indivisible avec la dignité d'une personnalité que nous ne devons pas outrager. Elle nous a préservés de la tendance à croire que l'homme pouvait être plus grand que son créateur. Nous nous souvenons de Miss Mason parce qu'elle nous a montré comment l'enseignement pouvait être naturel et simple. Naturel parce qu'il faisait appel à l'intérêt inné que tout enfant porte en lui. Nous le savions, mais elle nous a montré comment l'utiliser et le conserver. Naturel aussi parce que ses conditions d'attention et de concentration accompagnent toujours l'intérêt et ne peuvent être cultivées à partir de racines adventives. Simple parce que les méthodes d'enseignement n'impliquaient pas une formation particulière ou élaborée. La mère instruite, qui a la chance d'avoir le temps, peut éduquer son enfant à la maison avec succès. Nous vénérons la mémoire de Miss Mason parce qu'elle nous a montré comment le bonheur pouvait imprégner nos salles de classe, comment il pouvait y avoir de la joie dans les apprentissages, une joie qui naissait de l'esprit d'équipe dans la salle de classe. Elle a permis que la sympathie soit un lien durable entre l'enseignant et l'élève. Nous sommes reconnaissants envers Miss Mason pour la sagesse et le choix avec lesquels elle a élaboré ses programmes. Grâce à eux, nos élèves ont été conduits d'un pays de sauterelles et de miel sauvage à une plaine fertile où la nourriture est riche et variée. Grâce à eux, il n'est plus possible de qualifier nos écoles d'élémentaires. C'est pour ces quelques raisons seulement que nous rendons cet hommage à Miss Mason, qui a tant fait pour les élèves et les enseignants des écoles du pays. Nous pleurons sa mort, mais dans notre deuil, nous nous souvenons de sa vie. Voilà. Si vous voulez lire plus d'hommages de ses proches, je vous laisse vous connecter à notre site charlottemason.fr, rubrique « Le blog ».